Genèse chapitre 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. » Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle ? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. » Amen. Nous avons tous une carte d'identité. Mais nous savons que Dieu veut nous donner une nouvelle identité. Pour ma part, j'ai une double nationalité. Je suis français par ma mère et suisse par mon père. Donc, j'ai la possibilité d'avoir cette double nationalité, d'être suisse en Suisse et français en France. Et d'autre part, ça se transmet par les générations. Mais j'ai regardé un petit peu dans l'Église. Et j'ai été émerveillé de voir toutes les nationalités que nous représentons ce matin. Parmi nous, il y a des Gabonais, des Congolais, des Angolais, des Marocains, des Ghanéens, des Portugais, une Mexicaine, des Ivoiriens, des Tunisiens, une Cambodgienne, des Laotiens, des Espagnols, des Réunionnais, des Pieds-Noirs, des Guadeloupéens, des Martiniquais. Et les Guadeloupéens, ils sont là, hein. Il faut toujours qu'ils se fassent remarquer, les Guadeloupéens. Hein. Et il y a un Corse. Oui. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, il y a des Français, gloire à Dieu. Voilà, que Dieu soit béni pour... Et peut-être j'ai oublié. Et voilà, j'avais oublié la Brésil. Toutes mes excuses. Et je suis sûr que j'en ai oublié d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres nationalités ? Il y a des métropolitains, mais ils sont français. Voilà, enfin, vous avez retrouvé votre identité. Ce qui est important, c'est de savoir que maintenant que nous sommes en Christ, nous avons une nouvelle identité parce que ce matin, dans cette grande diversité que nous représentons, je vois des frères et des sœurs en Christ. Nous sommes maintenant la famille de Dieu. Et c'est ça qu'il nous faut comprendre, c'est que maintenant nous appartenons à une autre identité, l'identité de fils de Dieu, l'identité de chrétien. C'est ce qu'Abraham va recevoir lorsqu'il va découvrir son nouveau nom, Abraham. Un jour, lors d'une réunion de catéchisme dans une école catholique, la bonne sœur a réuni tous les petits-enfants, les jeunes enfants qui étaient là, et leur a demandé « Et quel est votre signe du zodiaque ?» Alors elle a commencé par le premier, et le premier a dit « Ben moi je suis taureau. » L'autre a dit « Moi je suis gémeaux. » Et l'autre a dit « Moi je suis poisson. » Et puis, arrivée au quatrième, qui était un ami à moi, qui était chrétien, elle lui pose la question « Et toi, mon petit, de quel signe es-tu » Et l'enfant lui dit « Moi, je suis né de nouveau, signe de l'agneau. » Je trouvais que c'était bien trouvé. Alors la bonne sœur, elle cherche « Mais l'agneau, mais il n'y a pas de signe de l'agneau. » Eh oui, il y a le signe de l'agneau, c'est pour ceux qui sont en Christ. Nous sommes du signe de l'agneau, frères et sœurs. Alors Sarah a essayé d'aider Dieu à accomplir le plan de la bénédiction. Puisque dans tout le chapitre 16, Abraham a déjà 85 ans, ça fait 10 ans qu'ils ont entendu cette promesse qu'il va y avoir une descendance, maintenant Sarah en a 75, ça paraît complètement impossible que Sarah puisse avoir un enfant un jour, donc elle s'est impatientée et ils ont cherché une autre solution et c'est par Agar que Sarai va tenter de donner une descendance à Abraham. C'est dans Genèse chapitre 16, verset 12. « Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, donc c'est Agar. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Ça me fait penser à cette histoire qu'on trouve dans le livre de le premier récit de la Genèse, lorsque le tentateur a parlé à Ève qu'elle a écouté la voix du serpent. Et quand ils ont été condamnés, à chaque fois, Adam va reporter la faute sur sa femme, Ève va reporter la faute sur le serpent, et le serpent va être condamné. À chaque fois, on a tendance à reporter la faute sur l'autre. Et ici, Sarai dit « Mais c'est l'Éternel qui m'a rendu stérile », alors que l'Éternel lui a dit « Tu auras une descendance ». Mais elle reporte la faute, c'est-à-dire comme elle n'a pas la descendance, elle n'a pas l'enfant, elle dit « C'est la faute de l'Éternel si je suis dans cette situation ». Et souvent nous avons la même réaction de dire « Le coupable c'est toujours les autres ». Et quand on est en difficulté, quand les choses ne se passent pas comme on a pensé, comme Dieu nous l'a dit, eh bien nous reportons la faute sur les autres. Comme quelqu'un disait dans l'Église, quand ça va bien, c'est toujours grâce aux chrétiens qui prient. Et quand ça va mal, c'est toujours la faute du pasteur. Comme le plan de Dieu ne fonctionne pas, elle va penser à élaborer un autre plan. On l'appellera le plan B. Son plan est bien meilleur que celui de Dieu à première vue, il est plus rapide. Et c'est même étonnant que Dieu n'y ait pas pensé avant elle. Elle s'est dit, mais puisque moi c'est impossible, on va certainement réaliser la promesse de Dieu par la servante Agar. Il faut savoir qu'à l'époque c'était une honte, et comme une malédiction de ne pas avoir d'enfant. Et il y avait ces moyens dans les cultures de l'époque, et ça c'était ce que le monde pouvait proposer, c'était d'utiliser la servante pour pouvoir avoir la descendance que la mère ne pouvait pas avoir, donc elle proposait la servante et elle disait « ce sera mon enfant, c'est la servante qui va enfanter, mais ce sera mon enfant ». C'est un moyen de pouvoir contourner la chose et d'avoir quand même une descendance. C'était un plan B. Mais en regardant de plus près, c'était une coutume païenne. Ce n'était pas du tout dans la vision de Dieu. Ainsi, Sarai a commencé à fléchir, et puis Abraham aussi finalement, et ils ont préféré suivre les coutumes du monde plutôt que de s'accrocher à la parole de Dieu. Et parfois, nous sommes tentés de faire la même chose. Quand les choses n'avancent pas assez vite, quand la promesse de Dieu ne se réalise pas, et quand nous voyons que ça fait plusieurs années et que les choses n'avancent pas, eh bien nous sommes tentés, comme Sarai, comme Abraham, de dire, eh bien, on va faire une autre manière. Peut-être que Dieu va bénir comme cela. C'est une erreur. Abraham, il est dit dans ce verset, écouta la voix de Sarai. C'était peut-être un conseil sage sur le plan humain, mais ce n'était pas la voix de Dieu. Et à ce moment-là, il aurait été important de prier, de chercher la face de Dieu, de dire, Seigneur, quelle est ta volonté dans cette situation ? Eh bien, il a suivi les méthodes de son temps. Et on sait que Agar, si vous vous rappelez le récit de l'histoire d'Abraham, c'était un des cadeaux de Pharaon. Quand Abraham est allé en Égypte, il avait dit à Sarai, sa femme, « Surtout, ne dis pas que tu es ma femme, tu vas dire que tu es ma sœur. » Parce qu'il craignait pour sa vie, et il se disait, « S'ils apprennent qu'elle est ma femme, comme elle est belle, ils vont me tuer et ils vont l'épouser. » Donc il avait lui aussi des plans dans l'esprit, il avait lui aussi des idées pour essayer d'aider Dieu à agir. C'était encore une erreur. Il a menti, le Pharaon l'a béni parce qu'il lui a donné des cadeaux, il lui a donné des animaux et il lui a donné des servantes et des serviteurs et des servantes, dont Agar. Agar, on pourrait l'appeler, entre guillemets, une bombe à retardement dans l'histoire d'Abraham. Parce qu'il va prendre tous les cadeaux avec lui et il va les emmener en dehors de l'Égypte, il ne va rien laisser. Mais en réalité, cette femme Agar, ça va être l'occasion pour lui d'une chute par la suite. Et s'il avait évité tout ça, eh bien ça aurait été bien mieux pour lui. Et quelquefois, nous aussi, dans notre parcours, nous avons des bombes à retardement qui sont avec nous. Nous avons failli à certains endroits, nous avons fait des compromis, nous avons repris le bon chemin. Mais un jour, paf, ça explose. Et ça nous explose à la figure parce qu'on a accepté des cadeaux, on a accepté des compromis, on a accepté des situations tangentes. Peut-être tout le monde a fermé les yeux, mais un jour, ça nous revient à la figure. Alors, le plan de Sarah, dans un premier temps, se déroule tout à fait bien. En fait, rapidement, Agar devient enceinte et c'est là qu'elle peut dire, gloire à Dieu, le plan de Dieu s'accomplit par Agar. Elle peut croire que Dieu bénit cette affaire, parce que les choses se passent exactement comme elle a pensé. Elle peut même voir l'approbation de Dieu dans cette histoire, et ça c'est toujours l'analyse des choses que nous avons. Quand les choses se passent comme nous pensons que Dieu bénit. Mais non, Dieu n'est pas dans cette affaire. Et les choses vont mal tourner rapidement, parce que quand Agar, la servante, va se retrouver enceinte, la Bible dit qu'elle va regarder avec dédain sa maîtresse Sarai. Elle va la mépriser dans son cœur. Elle ne va pas avoir envers elle le respect qu'elle aurait dû. Et tout cela va commencer à créer des complications dans la vie de Sarai, dans la vie d'Abraham, dans leur entourage. Eh bien, ça va être catastrophe sur catastrophe, au point que Sarai va commencer à battre sa servante. Elle va devoir fuir. Elle va quand même être ramenée. Ismaël va naître. Ismaël va devenir l'ancêtre de tout le peuple arabe, dont d'Ismaël est issu Mahomet qui a été le fondateur de cette religion de l'islam. Et tout cela, ça vient d'Ismaël. Alors vous voyez que des petits compromis, des petits péchés, par-ci, par-là, eh bien un jour ça nous revient dessus et ça a des conséquences à long terme tout à fait importantes qu'à l'époque, et bien sûr, ils étaient loin de pouvoir imaginer. Cet enfant qui devait être une bénédiction va devenir le pire cauchemar de Sarai. Elle ne va pas endormir la nuit, elle va être malheureuse, malade, alors que c'était son idée. Alors après, elle revient vers Abraham et lui dit, mais chasse ta servante, qu'elle n'ait plus de part avec nous. Et puis Abraham lui dit, mais c'est ta servante, tu fais ce que tu veux avec. Mais Dieu avait aussi, par sa grâce, la protection sur Agar, et finalement Ismaël va naître. Alors nous arrivons au chapitre 17 et là, Dieu va à nouveau parler à Abraham au verset 1er. Abraham est âgé maintenant de 99 ans. L'histoire d'Ismaël, il avait 85 ans. Donc 10 ans à peu près se sont écoulés, 14 ans se sont écoulés entre les deux événements. Abraham avait déjà découvert Dieu comme El Elyon, le Dieu très haut, on en a déjà parlé, avec l'histoire de Melchisédek, roi de justice, roi de Salem, qui lui a fait découvrir El Elyon, le Dieu Très-Haut. Nous savons qui est Melchisédek, une préfiguration de Jésus-Christ. Et ici, dans ce verset, il découvre maintenant l'Éternel comme le Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui lui parle. « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » C'est-à-dire El Shaddai. El Elyon, c'est le Dieu Très-Haut. El Shaddai, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il y a maintenant quelque chose qu'Abraham doit découvrir de Dieu, c'est qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il avait déjà découvert qu'on pouvait le prier, qu'on pouvait le louer, qu'on pouvait le suivre et que Dieu pouvait nous parler. Eh bien, on voit que dans les étapes de sa vie, il apprend à connaître Dieu sous différentes facettes. Maintenant, il va apprendre que Dieu est tout-puissant. Et si on regarde dans le Nouveau Testament, on verra que Jésus, le Fils de Dieu, est lui-même l'incarnation du Dieu tout-puissant, El Shaddai. Par exemple, Jésus a tout pouvoir. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Mais celui qui a tout pouvoir, c'est El Shaddai. Et quand Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné », c'est pour montrer sa nature divine. Il a tout pouvoir encore aujourd'hui dans le ciel, sur la terre. C'est-à-dire, pouvoir sur la nature, il est capable de calmer les tempêtes, de sécher un figuier, de le maudire, de transformer des situations, changer de l'eau en vin, par exemple. Tout ça, c'est son pouvoir sur les choses de la nature. Il a le pouvoir de marcher sur l'eau, beaucoup d'exemples dans la parole. Il a le pouvoir de guérir les maladies, on le voit sur les lépreux, quand il guérit 10 lépreux, quand il guérit un paralytique, des aveugles. Il a le pouvoir sur les démons, quand il chasse des personnes qui sont possédées par des mauvais esprits. Il a le pouvoir sur la mort, lorsqu'il ressuscite Lazare, lorsqu'il ressuscite la fille de Jaïrus. Alors nous pouvons dire avec la parole de Dieu, oui, encore aujourd'hui, tout pouvoir a été donné à Jésus et l'incarnation d'El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Abraham découvre donc Dieu comme El Shaddai, mais nous devons découvrir Jésus comme le Dieu Tout-Puissant aussi ce matin. Jésus est le Dieu Tout-Puissant et il est vainqueur sur la maladie, sur les démons, sur la nature, sur la mort. Dieu demande simplement à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, mais toi, sois fidèle, marche d'une manière fidèle dans mes voies. Ça, c'est notre part maintenant. La version Semeur traduit « Comporte-toi d'une manière irréprochable ». Paul dit, nous demande de nous comporter d'une manière digne de l'Évangile. Ça, c'est la part des enfants de Dieu. Nous sommes avec cette réalité que Dieu est tout-puissant et nous devons marcher avec cette foi. Maintenant, j'arrive à un troisième point, c'est la nouvelle identité d'Abraham. C'est dans ce passage que Dieu va attribuer un nouveau nom à Abraham. Abraham, ça veut dire « père élevé ». Dieu lui dit « tu ne t'appelleras plus Abraham, mais désormais tu seras Abraham », c'est-à-dire « père d'une multitude ». Alors c'est important ici parce que à partir de ce moment-là, on ne l'appellera plus Abraham, mais Abraham. On l'appellera en fait du nom que Dieu a mis sur sa vie, de l'identité de Dieu. Et nous avons aussi une identité en Christ, frères et sœurs. De même que Abraham a reçu un nom de Dieu, nous avons un nom aussi, une identité qui nous est accordée. Nous sommes enfants de la promesse. Et Dieu voit ce que nous sommes, non seulement selon la nature humaine, c'est-à-dire Abraham c'est la nature humaine, mais il voit aussi Abraham, ce que Abraham est appelé à devenir. Pas simplement ce qu'il est, mais ce qu'il est dans son identité spirituelle et ce qu'il est appelé à faire pour Dieu. Et c'est pareil pour nous selon la promesse. En Christ, nous sommes une nouvelle création. C'est affirmé dans la parole de Dieu. Nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis un enfant de Dieu, co-héritier de Christ, membre du royaume de Dieu. Je suis béni dans les lieux célestes. Je suis membre de la famille de Dieu, je suis serviteur du Très-Haut, je suis plus que vainqueur dans le nom de Jésus, j'ai des privilèges, je suis membre de la maison de Dieu, j'ai la sainteté qui m'est accordée, je suis justifié, je suis gracié, je suis un soldat dans l'armée de Dieu. Toutes ces choses, en fait, nous sont accordées spirituellement par Christ. C'est notre nouvelle identité. Alors, nous devons devenir comme Abraham. Abraham est devenu Abraham. Nous devons devenir ce que Dieu dit de nous en devenir. Nous devons devenir des enfants de Dieu, mais nous le sommes. Nous devons devenir saints, mais nous le sommes. Et nous devons nous sanctifier, et nous devons progresser dans la sanctification, etc. Si on regarde dans la parole de Dieu, on voit plusieurs personnes dont le nom a été changé. Par exemple, Jacob, qui signifie le trompeur. Dieu a changé son nom, il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob le trompeur, mais tu t'appelleras Israël, le lutteur avec Dieu. Dieu a changé son nom et remarquez que Jacob, toute sa vie, il a trompé. Il a trompé son frère, il a trompé son père en se faisant passer pour son frère. Il a trompé son oncle Laban. Il a trompé une multitude de gens, en fait, autour de lui. C'était sa caractéristique. Et à un moment donné, Dieu a lutté avec lui, en fait. C'était l'ange de l'Éternel a lutté avec lui toute une nuit. Et il l'a frappé au côté. Et à partir de ce jour-là, il a changé son nom, mais à partir de ce jour-là, Jacob est devenu boiteux. Et c'est très important ce qui s'est passé pour Jacob. Parce qu'avant, il marchait droit, mais dans son cœur, il était boiteux parce qu'il était trompeur. Mais ce jour-là, il a commencé à boiter physiquement, mais spirituellement, il a été redressé. C'est l'identité que Dieu lui a donnée. Tu ne t'appelleras plus Jacob le boiteux, mais tu t'appelleras Israël. Le trompeur est devenu Israël. Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous, parce que nous sommes tous boiteux. Nous sommes tous bancals quelque part, nous avons des failles, nous avons des difficultés. Et Dieu veut nous permettre de devenir la véritable identité spirituelle qu'il a prévue pour nous. Regardez Simon dans le Nouveau Testament, c'est Pierre qui lui dit « Tu ne seras plus Simon, mais tu t'appelleras désormais Pierre ». Simon, c'était le pêcheur de poissons, mais Pierre va devenir le rocher, le pêcheur d'hommes, celui qui va prêcher le jour de la Pentecôte, qui va permettre que l'Évangile aille de l'avant et puis que l'Église prospère. Ça, c'est Pierre. Mais Jésus voit déjà Pierre dans Simon. Pourtant, tout le monde connaît Simon comme le pêcheur, comme quelqu'un qui a peu de capacité. Mais Dieu le voit en devenir, et c'est ainsi qu'il nous voit aussi, frères et sœurs. Le temps de Dieu, j'en arrive au verset 4. Toujours, pratiquement dans la parole de Dieu, quand Dieu parle, il parle à trois temps différents, que j'appelle le temps de Dieu. D'abord, il dit au verset 4, « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père » d'une multitude de nations. Tu deviendras, c'est du futur. Mais regardez le verset 5. Il passe au présent. Il dit, je te rends père d'une multitude de nations. Je te rends, ça c'est du présent. Donc il lui a dit, tu deviendras du futur. Il lui dit, maintenant je te rends. Et si vous lisez dans Romains chapitre 4 verset 17, il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations au passé. Et on retrouve toujours les trois temps de Dieu en Dieu parce que Dieu est passé, présent, futur. Et il peut dire la même chose. Il peut dire je t'ai établi même si ça va se faire plus tard. Parce que c'est déjà dans le plan de Dieu, c'est déjà quelque chose qui est acquis spirituellement. Pour Dieu, le passé est présent, le présent est futur, le futur est passé. Le passé est futur et le futur est présent. Pour Dieu, le temps, tous les temps sont en même temps. Il n'y a pas de distinction. Alors pour nous, nous dirons, c'est plus tard. Mais Dieu peut dire, c'est déjà fait. C'est déjà quelque chose d'acquis parce que tu l'es déjà en Christ. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà appelé à quelque chose que tu ignores. Mais c'est déjà dans l'esprit de Dieu. Donc Dieu peut dire, c'est déjà fait. Par exemple, avant que Jérémie naisse, Dieu avait dit, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je t'ai établi prophète des nations. Est-ce que Jérémie n'était même pas né? Et pourtant, c'était déjà établi et Dieu dit au passé, je t'ai établi prophète des nations. Il y avait donc sur sa vie un plan, un projet de Dieu qui était grandiose, que Jérémie ne connaissait pas et qu'il a découvert par la suite. Mais c'était déjà annoncé avant même sa naissance. Ça, c'est le temps de Dieu. Il était déjà accompli. Mais regardez, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus fait le même enseignement sur la foi. Et il nous dit dans Marc 11, 24, dans la version second révisée, qui est plus exacte, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez, donc tout ce que vous demandez, c'est présent, croyez que vous l'avez reçu, c'est passé, et cela vous sera accordé, c'est futur. Vous avez les trois temps qui sont conjugués dans le même verset et qui concernent la foi. Et là, il y a une antinomie parce que vous dites, vous l'avez reçu, et en même temps, Jésus dit, cela vous sera accordé. Et essayez de comprendre ceci. Vous l'avez reçu, et en même temps, ça vous sera accordé. Ce sont deux choses contradictoires. Soit je l'ai reçu, donc je l'ai. Je n'ai pas besoin que ça me soit accordé puisque je l'ai. Mais la Bible dit, et cela vous sera accordé, c'est futur. Et pourtant, elle maintient en même temps que vous l'avez déjà. Et c'est là où on voit la dimension spirituelle des trois temps de Dieu qui se conjuguent dans la foi, passé, présent, futur. C'est-à-dire que nous l'avons reçu dans la foi et nous le verrons se manifester par nos yeux par la suite, mais spirituellement, c'est déjà quelque chose d'acquis. Dieu change notre nom. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 17, c'est écrit « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » Ça, c'est promis pour tous ceux qui vaincront, tous ceux qui auront été jusqu'au bout, qui ont leur place au ciel. Un nom nouveau leur est accordé. Ce changement de nom fait référence avec le changement d'identité. Nous avons une identité, nous avons dit, nous avons une nationalité, nous avons une carte d'identité, mais nous avons une nouvelle carte d'identité, nous avons une nouvelle identité, c'est celle que nous avons en Christ. Et c'est ce nom nouveau, cette nouvelle identité. Le changement de nom, en fait, c'est le changement d'identité. Comme Pierre, on a parlé de Pierre, Simon qui est devenu Pierre. Alors, quand Jésus a rencontré Pierre pour la première fois, il s'appelait Simon encore à l'époque. Quand Jésus a rencontré Simon, il était pêcheur, il était au bord du lac de Génézareth, il pêchait des poissons, c'était son métier. Donc, Jésus connaissait son passé, il était pêcheur. Jésus voit son présent, c'est un homme qui avait échoué, il avait tenté de faire une pêche et il était revenu bredouille. Ça, c'est le présent. Et Jésus voit son futur, il lui dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc, dans le même instant présent, Jésus voit son passé, Jésus voit sa situation présente, mais Jésus voit aussi ce qu'il est appelé à devenir en Christ, c'est-à-dire un pêcheur d'hommes, un prédicateur de l'Évangile. Regardez Gédéon. Lorsque l'ange de l'Éternel voit Gédéon, il voit le passé de Gédéon, c'est le plus petit dans sa famille, il est insignifiant, il est inconnu. Il voit aussi son présent. Gédéon est craintif parce qu'il y a tous les Madianites qui sont autour de lui qui veulent le détruire, qui veulent détruire le peuple d'Israël. Et puis, l'ange de l'Éternel voit l'avenir de Gédéon. Et il dit, tu es un vaillant héros, tu feras des exploits pour l'Éternel. Et Gédéon est à mille lieues de penser qu'il pourra un jour se battre contre les Madianites. Mais déjà, l'ange de l'Éternel voit ce qu'il est en devenir. Et regardez David, c'est exactement la même chose. Lorsque David est oint par Samuel. Samuel sait qu'il est berger. C'est un simple berger. Il n'a pas été convoqué par le père pour être oint, être le prochain roi d'Israël. Ça, c'est son passé. Il était berger. Ensuite, Samuel voit son présent. Son présent, c'est qu'il est méprisé par sa famille. Il est méprisé par son père qui ne le considère pas. Ses frères vont le rejeter. Et puis, Samuel reçoit la pensée du futur le concernant. Il sera le prochain roi d'Israël et il va le oindre à l'instant même comme roi d'Israël. Mais regardez ceci. Quand David est oint roi à ce moment-là précis, il n'est pas encore roi d'Israël, mais il est déjà oint comme roi d'Israël. Et si vous regardez son histoire, ça ne se produira que bien des années plus tard où il règnera effectivement sur Israël, mais déjà il a l'onction pour être le roi d'Israël. Donc, c'est déjà fait, mais ce n'est pas encore accompli. Il le reçoit par la foi, mais ça va se réaliser dans l'avenir. Toujours les trois temps de Dieu. J'en arrive au quatrième point, c'est le signe de l'Alliance que l'on voit à partir du verset 9. Le signe de la circoncision. Jusqu'à Genèse chapitre 17, Dieu avait donné un signe d'Alliance à l'homme. Il avait dit... J'établirai dans le ciel un arc, c'est l'arc-en-ciel. Ça sera une alliance entre moi et vous. Et à partir de Genèse 17, à partir d'Abraham, Dieu va donner le signe de la circoncision. Ce signe signifie trois choses. Premièrement, la responsabilité de l'homme, parce que dans le cas de l'arc-en-ciel, l'homme n'était pas impliqué. C'était Dieu qui avait donné ce signe, mais finalement l'homme en bénéficiait sans avoir aucune part à faire. Maintenant, c'est différent. Dans le signe de la circoncision, la responsabilité de l'homme est impliquée. Sa foi est impliquée dans Romains chapitre 4, verset 11. Il est écrit, donc à propos d'Abraham. « Et Abraham reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur soit imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. » Paul ici fait la relation entre la circoncision et la foi. Et donc, il est nécessaire d'opérer ce signe dans la foi. Ce n'est pas juste dans la chair, mais c'est dans la foi. Et puis la troisième chose, c'est l'obéissance aux conditions divines. À partir de ce jour, tous les mâles devront être circoncis le huitième jour. Ça va être une loi qui existe encore d'ailleurs en Israël. Et maintenant, on peut faire le parallèle avec le signe de la Nouvelle Alliance dans le Nouveau Testament, qui est le baptême. Parce que le baptême, c'est de notre responsabilité, un petit peu comme la circoncision, c'est à nous de demander le baptême. La foi est impliquée dans le baptême parce que c'est celui qui croira et qui sera baptisé qui sera sauvé. Donc il nous faut croire, ce n'est pas juste être plongé dans l'eau. Et puis il nous faut obéir à l'enseignement des Écritures. Donc on retrouve dans la Nouvelle Alliance les mêmes caractéristiques, bien que la circoncision n'est plus le signe de la Nouvelle Alliance, maintenant c'est le baptême, mais néanmoins, il y a quand même les caractéristiques qui demeurent, comme dans l'Ancienne Alliance. En conclusion, nous pouvons dire que cette nouvelle révélation de Dieu, El Shaddai, montre que maintenant l'accomplissement de la promesse est proche pour Abraham. C'est bien Sarah qui enfantera l'enfant. C'est-à-dire que le plan de Sarai, qui est passé par Agar, tout cela, Dieu a laissé faire, mais il n'était pas d'accord. Et maintenant, le véritable plan va s'accomplir. Quand Abraham a entendu ça, il a ri. Il a ri parce qu'il pensait certainement que c'était trop compliqué. Et puis il a dit, mais qu'Ismaël vive devant ta face. C'est-à-dire, on a fait quand même le plan B, mais Seigneur, finalement, ce n'est pas si mal, on peut rester comme ça. Mais non, Dieu maintient, il y aura un nouvel enfant. Et c'est à ce moment-là que Dieu va révéler le nom de l'enfant qui va venir, c'est Isaac. Isaac, qui signifie « il rit », certainement en association avec le rire d'Abraham. Et puis Sarah va rire aussi, et Isaac signifie « il rit ». Abraham, donc, va recevoir cette parole, et effectivement, une année plus tard, donc, l'enfant de la promesse va arriver. Donc, il n'y a aucune promesse qui est trop élevée pour Dieu. Il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Nous avons raison de croire que même si la chose semble tarder, nous avons raison de nous accrocher et de dire « Oui, Seigneur, il l'a dit, il l'accomplira en son temps. » Mais soyons de ceux qui patientent, ne nous égarons pas dans les plans secondaires, ne cherchons pas à accomplir le plan de Dieu par nos efforts, par nos forces. Nous n'y arriverons pas, ou plutôt nous allons arriver à des situations pires que mieux, et nous risquons même d'avoir des difficultés supplémentaires. Mais mettons notre foi dans le Seigneur. Prions quelques instants.